meeting international du 9 organisé par la...
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission sur microrebelle.fr. C'est une émission consacrée à ce que l'on a appelé les événements de 68 ou encore mai 68. Nous l'avons réalisé à l'occasion de la clôture du cycle mai 68 rétroprojection à l'initiative de la coopérative CLIS 21 et du LAG, le lieu autogéré de Liévin. Je commence par vous rappeler quel a été le contenu de ce cycle, organisé en 2018, 50 ans après mai 68. En ouverture, un ciné-débat autour du film « Reprise, un voyage au cœur de la classe ouvrière » réalisé par Hervé Leroux. Le film est basé sur la recherche de la jeune femme qui, au moment de la reprise du travail le 10 juin 68 aux usines Vonder de Saint-Ouen, crie en larmes qu'elle ne rentrera pas. Deuxième phase du cycle, une soirée sur le thème « Mai 68, féminisme et libération sexuelle » en partenariat avec le planning familial du Pas-de-Calais. Puis, une matinée d'éducation populaire sur le thème « Mai 68, mythe et réalité », matinée animée par notre ami Paul Masson. Et enfin, pour terminer, quatrième phase, les échanges de clôture de ce cycle à l'occasion d'un débat « Penser ensemble » organisé au LAG par CLIS 21 avec la participation tout à fait exceptionnelle de Ludivine Bantini, dont le livre « 1968 de grand soir en petit matin » a été une belle référence en cette année du cinquantenaire. Micro-Rebelle était donc présente à cette matinée qui a rassemblé de nombreux participantes et participants. Je vous propose dans un premier temps d'écouter quelques réactions que nous avons captées à l'issue de ce débat « Penser ensemble ».
Bah, sur 68, comme j'ai dit pendant tout à l'heure dans mon intervention, depuis le début qu'on est en 18 et qu'on parle de 68, je m'interdis d'idéaliser ce moment et tout ça. Moi, je l'ai toujours vécu comme j'avais 15 ans. Et donc, j'idéalise pas cette période. Je pense qu'elle est importante. Et ce que j'ai entendu m'a permis de me mettre des idées en place, quoi. Mais là, tout de suite, c'est encore trop chaud. C'est encore trop chaud. J'ai rien. Sauf que moi, j'ai fait plusieurs écoles militantes. Et comment? Je suis de milieu ouvrier. Et en fait, ce que je constate, c'est ce que j'ai retenu. Enfin, je ne sais pas comment ça a été dit pendant le débat, mais en tout cas, je sais une chose, c'est que ce n'est pas les médias dominants qui... eux, ils ont une tendance à parler de 68 avec uniquement les étudiants et cette partie-là de la population, alors que 68, ce n'est pas que les étudiants et ce n'est pas que les intellectuels.
C'est un débat très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai que mai 68, si c'est pas toi aujourd'hui qui fais l'effort d'aller chercher de l'information, et après il faut voir quelle information tu vas chercher, mais moi on n'a pas tant parlé que ça à l'école. Du coup, c'est vrai que j'en avais une idée assez vague en fait. Je me souviens qu'en 2008, j'étais à l'université à l'époque, à l'université de Saint-Denis, qui est anciennement Vincennes, qui a justement été montée pendant mai 68. Donc en 2008, ils voulaient fêter les 40 ans en étant très fiers du fait que c'était l'héritage de mai 68. Mais nous, au même moment, on faisait des luttes contre des lois LRU et dont la présidence suivait le pas, quoi. Donc c'était complètement hypocrite et on se rendait bien compte que héritage mai 68, ça pouvait être bien récupéré, quoi. Et donc là, c'est vrai qu'au débat d'aujourd'hui, moi personnellement, j'ai eu un éclairage sur des choses que je connaissais pas. Je trouvais que l'intervenante Ludivine avait une manière très claire d'expliquer les choses en expliquant bien justement pour les personnes qui ne connaissaient pas tout. Et donc j'ai trouvé ça très accessible. Et puis suivi d'un débat, d'un échange très enrichissant avec ouais, des liens sur ce qui se fait aujourd'hui. Ça, je trouve ça toujours très important. Et voilà, un débat comme ça, c'est pour moi un moment très important pour développer et continuer sa réflexion individuelle, mais aussi imaginer que collectivement, on peut continuer à, ouais, à au moins réfléchir ensemble, quoi. Et c'est pas mal.
Ça fait du bien d'entendre ça, ça fait du bien parce que pour se ressourcer, ne serait-ce que pour se ressourcer, se donner de, asseoir une, des convictions, quoi, les consolider, les enraciner, les rendre plus solides, quoi, les consolider, ben, un petit peu ce que disait David, quoi, sur l'évolution des syndicats, tout ce que nous enlève, tout ce que nous font perdre les fonctionnements des hiérarchies syndicales, politiques, qu'ils enlèvent à la population, quoi, ils enlèvent toute possibilité au commun des mortels, je dirais, de s'emparer de leur vie, quoi, de leur destin, et ça c'est terrible, quoi. C'est vraiment une déconscientisation, on a plus de base pour avancer, quoi, la dépolitisation, en gros, hein. C'est dans le sens noble du terme, quoi. C'est à nous de prendre notre vie en main et on n'y arrive plus, quoi. On n'y arrive plus par manque d'enracinement intellectuel, de connaissances de notre histoire, de nos luttes, pour justement permettre de continuer de lutter et parce que là on va droit dans le mur, quoi. On va vraiment dans le mur. C'est dur, quoi, c'est dur actuellement, et justement des moments comme ça, ça permet de redonner de la pêche, quoi.
Je m'excuse de vous prendre la partie. Si vous aviez un garçon de 25 ans qui est allé à l'école de 15 à 25 ans.
Nous sommes toujours sur microrebelle.fr à l'occasion de la venue de Ludivine Bantigny au LAG dans le cadre du cycle mai 68 rétroprojection à l'initiative de CLIS 21 et du LAG. Après le débat au LAG, Ludivine Bantigny a accepté de se rendre dans les studios de Micro Rebelle pour un chouette entretien que je vous propose d'écouter sans attendre.
Je vous demande de faire des lignes jusqu'au fond pour qu'il n'y ait pas de débordement sur les côtés. C'est tout.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur microrebelle.fr, la radio des luttes sociales dans le bassin minier. Alors aujourd'hui, c'est une émission tout à fait exceptionnelle puisque nous avons le plaisir de recevoir Ludivine Bantigny. Alors Ludivine, bonjour.
Bonjour, Christine.
Alors tu auras l'occasion de te présenter tout de suite après, mais ce que je voudrais dire, c'est que Ludivine est venue dans le bassin minier à Liévin à l'occasion d'un échange Pensée Ensemble au LAG, le lieu autogéré de Liévin, pour évoquer mai 68, hein, étant donné qu'elle a beaucoup écrit et beaucoup échangé à ce sujet cette année. Autour de la table, il y a également Aurélie. Donc, bonjour Aurélie.
Bonjour.
Donc Aurélie fait partie de l'équipe des jeunes de Micro Rebelle. Elle a assisté au débat de ce matin, donc elle a souhaité participer à cet échange. Et il y a également notre ami Paul Masson. Bonjour Paul.
Bonjour.
Donc Paul, que nos auditrices et nos auditeurs connaissent bien, hein, Paul est adhérent de Micro Rebelle, tout d'abord. Et ensuite, Paul a conduit un cycle de 4 émissions sur mai 68. Qui est ce cycle, hein, qui est disponible, hein, en téléchargement et en podcast sur microrebelle.fr. Alors, peut-être pour commencer avec toi, Ludivine, hein, c'est quand même toi notre invité aujourd'hui, je vais te laisser te présenter. Moi, j'avais, pour te dire un peu les choses telles que je les ai ressenties, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a vraiment des historiennes femmes qui ont qui commencent à avoir une audience très forte. Je pense à Michel Perrault, je pense à Michel Zaccarini-Fournel. J'avais envie de te situer dans cette lignée. Je ne sais pas si, autrement dit, des historiennes femmes qui ont une fibre sociale et qui ont envie de communiquer un certain nombre d'aspects historiques sur l'histoire populaire. Et c'est un peu comme ça que je te voyais. Mais je te laisse le dire toi-même.
Merci beaucoup. Je suis très touchée, évidemment, à l'idée de m'inscrire dans ce sillage et dans cet héritage. Et en effet, de toute façon, je suis en dette à l'égard des historiennes que tu as citées. Michèle Perrault, qui est évidemment une pionnière de l'histoire ouvrière et de l'histoire des femmes. Elle a énormément contribué à faire émerger l'histoire des femmes en France à partir des années 1970. Elle a toujours une activité formidable, d'une grande intensité, et toujours cet engagement également, et je la respecte évidemment beaucoup, on a déjà beaucoup discuté. Et c'est le cas aussi de Michèle Zaccarini-Fournel, qui, de la même manière, un peu plus jeune, mais qui a contribué elle aussi comme une sorte d'avant-garde historiographique à travailler aussi bien sur l'histoire populaire que l'histoire du genre et des femmes. Et elle a beaucoup travaillé sur les années 68 d'ailleurs, je lui dois beaucoup également, elle était membre du jury de mon habilitation à diriger des recherches il y a un an exactement. Et elle a publié récemment à la Découverte un livre formidable qui s'appelle « Des luttes et des rêves, une histoire populaire de la France ». Et voilà, donc j'aimerais beaucoup en effet pouvoir me revendiquer de leur héritage. Et en tout cas, c'est une source d'inspiration en effet.
Voilà, donc peut-être au niveau formel, hein, moi j'ai préparé un certain nombre de questions à échanger avec Ludivine. Paul et Aurélie, je vous laisse faire un petit coucou quand vous souhaitez intervenir. Hein, voilà. Alors, Ludivine, moi j'avais envie de commencer par mai 68, hein, donc à l'occasion du livre que tu as écrit. Alors, mai 68, un des soucis, en quelque sorte, c'est le fait de circonscrire cet événement à un mois, hein, le mois de mai 68. On ne parle jamais du mois de juin, alors que le mois de juin, en 68, il y a eu beaucoup de grèves qui ont continué. Il y a eu plusieurs morts, hein, 4 morts, il me semble. On ne parle du mois de juin que pour parler de des élections qui ont clôturé le mois. Donc, mais sans doute circonscrit à un mois, circonscrit à une ville, Paris. Et dans ton livre, tu as une toute autre approche.
Oui, mais je trouve que c'est très important que tu commences de cette façon, parce qu'en effet, on est un certain nombre à penser qu'il faut éviter, sans recommandation ni consigne, hein, mais éviter de parler uniquement en effet de mai 68, d'employer cette formule, parce que cette formule elle est problématique du point de vue non seulement de la chronologie des événements, on peut en dire quelques mots, mais aussi d'un point de vue politique. Pourquoi ? Parce qu'au fond, dire mai 68, c'est un peu comme si tout s'était arrêté fin mai, lorsque le pouvoir, en la personne du général de Gaulle, a appelé à dissoudre l'Assemblée nationale et a appelé donc à se préparer aux élections législatives qui, comme tu l'as rappelé, auront lieu fin juin. Et donc c'est oublier les enjeux fondamentaux qui se sont posés en mai et juin 1968. Et juin est d'autant plus important que c'est là que tout ce temps, finalement, je dirais presque que l'essentiel, c'est presque de la provocation, mais je l'assume un peu, l'essentiel se noue en juin, parce qu'il y a une répression policière féroce, des évacuations de lieux occupés alors que la grève se poursuit dans bien des endroits, parfois même jusqu'à la fin du mois. C'est le cas dans l'industrie automobile, c'est le cas en partie dans les transports, c'est le cas aussi du côté des journalistes et des techniciens de l'ORTF, hein, l'Office de la radio et de la télévision française. Donc il y a une répression, il y a des morts, comme tu l'as rappelé, dont deux morts dans une usine, pas n'importe laquelle, puisque c'est une des plus grosses usines de France, Peugeot à Sochaux. Pierre Bello et Henri Blanchet qui meurent lors de l'intervention des gendarmes mobiles et des CRS. Il y a aussi la dissolution de 11 organisations de gauche révolutionnaire sans autre forme de procès, tandis que le pouvoir amnistie les anciens de l'OAS, hein, donc l'extrême droite pro-Algérie française, hein, l'organisation de l'armée l'OAS, l'organisation de l'armée secrète. Donc il y a énormément de questions fondamentales au mois de juin qui nécessitent qu'on y revienne. Et puis là où tu as également raison de nuancer l'expression mai 68, c'est que finalement tout n'a pas commencé début mai à la Sorbonne, au Quartier Latin et donc à Paris, mais il y avait eu dès le début de l'année 1968, hein, en particulier en janvier et février, des grèves déjà très importantes et des grèves ouvrières. Hein, je pense à ce qui s'était passé à Caen en janvier-février 68. Des grèves ouvrières avec des jeunes, beaucoup, hein, qui s'étaient mis en grève dans une grève très dure, avec des affrontements aussi avec les forces de l'ordre et avec déjà, ce qui fera l'une des caractéristiques de 68, des phénomènes de solidarité entre ouvriers, paysans, étudiants, salariés d'autres secteurs comme la fonction publique. Donc c'est vrai qu'il faut revoir 68 en essayant aussi de le sortir des clichés, de le sortir du quartier latin, même s'il ne faut pas non plus négliger ce qui s'est passé à Paris, à la Sorbonne ou encore à Nanterre, mais bien souligner qu'évidemment 68 est loin de n'être qu'un mouvement étudiant et qu'un mouvement parisien.
Alors justement, un mouvement non parisien, est-ce que tu peux développer ?
Oui, alors bon, moi j'ai vraiment essayé de travailler sur des archives très diverses, hein, qui sont très foisonnantes, et là aussi je rappellerai l'importance du travail de Michel Zancarini-Fournel, et puis le travail aussi qui peut intéresser les auditeurs et les auditrices de Micro Rebelles, celui de Xavier Vignat, qui est un historien qui a travaillé sur ce qu'il a nommé l'insubordination ouvrière, hein, au cours des décennies 60 et 70, donc il a travaillé sur le monde des usines, en tant que ce sont aussi des lieux de politique, hein, au sens d'engagement. Et un peu dans cette perspective aussi, ce que j'ai voulu faire, c'est voir ce qui se passait un peu partout en France en 68 et aussi dans une perspective internationale. Donc je suis allée beaucoup dans les archives départementales. J'ai choisi un peu plus de 20 départements pour leur caractère représentatif de l'ensemble du pays en quelque sorte. Aussi bien justement par exemple le Pas-de-Calais, le Nord, la Loire-Atlantique, le Rhône, les Bouches-du-Rhône. Bref, des bastions traditionnels du mouvement ouvrier, des départements très industrialisés, et au contraire également des départements ruraux, des départements auxquels on ne songerait pas forcément quand on pense aux mouvements sociaux. Par exemple, la Meuse, par exemple, les Vosges, la Creuse, la Corrèze, entre autres. Et je me souviens d'ailleurs avoir trouvé des documents émanant du préfet de la Meuse, à Bar-le-Duc, qui était tout à fait déstabilisé en mai et juin 1968, parce qu'il disait « Mais mon département habituellement si conservateur, si patriarcal, je ne le reconnais plus, il y a des grèves, il y a des cortèges, il y a des occupations, il y a des manifestations importantes. » Donc ça m'a paru essentiel. Et du coup, de pouvoir montrer, enfin, je n'avais pas d'a priori, hein, j'ai fait cette recherche avec des sources, encore une fois, très abondantes, et j'ai été en effet extrêmement frappée de voir que tout le pays était concerné par 68, que partout, même par exemple dans les industries dispersées en milieu rural des Vosges, eh bien il y avait des grèves et des occupations. Et que donc le clivage en 68, c'est pas un clivage Paris-Province, c'est pas non plus un clivage entre grandes villes et petites villes, parce qu'il y a un certain nombre de petites villes où il se passe des manifestations, des occupations, des contestations. Le clivage, bon, bah, il vient reconduire des oppositions traditionnelles. C'est vrai qu'il y a des petites villes conservatrices en province qui voient la contestation et la grève comme un chaos, comme une chienlit, pour reprendre le terme de De Gaulle. Mais je me souviens, par exemple, d'avoir découvert bien des choses sur la Vendée et notamment La Roche-sur-Yon. Donc là non plus, c'est pas forcément une ville à laquelle on pense en premier lieu quand on évoque 68. Et pourtant, il y a eu des grèves importantes de femmes, notamment dans l'industrie textile. Donc typiquement, hein, si on prend cet exemple de la Vendée, on s'aperçoit qu'il y a un clivage au sein même du département entre ce qu'on a traditionnellement appelé, finalement depuis la Révolution française, une Vendée blanche, une Vendée conservatrice voire réactionnaire, et puis une Vendée rouge, une Vendée très, très engagée avec des traditions parfois même révolutionnaires.
Alors, dans le même ordre d'idée, qu'est-ce que tu pourrais évoquer concernant le Pas-de-Calais ?
Bah, dans le Pas-de-Calais, c'est vrai qu'on est face là à un bastion du monde ouvrier. Il y a déjà eu des luttes vraiment très très importantes. Évidemment, la grève des mineurs de 1963 reste dans tous les esprits. C'est une lutte essentielle, elle a été très populaire. Et ce qui est intéressant d'ailleurs avec cette grève des mineurs de 1963, c'est qu'elle elle a déjà suscité des réactions de solidarité, notamment du monde étudiant. Et ça, on le retrouve en 68. Et j'ai j'ai pu voir dans les archives départementales ici du Pas-de-Calais que en fait il y a un certain nombre d'élèves de lycées généraux ou de lycées professionnels qui s'engagent très tôt dans les mobilisations en solidarité avec les occupations en fait de différentes entreprises du bassin minier. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà trouvé en 63, et en 63 c'était allé même au-delà du bassin minier, puisque même à la Sorbonne, il y avait eu des mobilisations en soutien aux grévistes avec des caisses de grève, etc., qui avaient été montées.
J'ai décidé que la Sorbonne serait librement rouverte à partir de lundi.
Un autre stéréotype, c'est mai 68, c'est un mouvement étudiant. Et ton livre aborde les autres aspects, notamment l'aspect ouvrier. Alors, est-ce que tu peux revenir sur cet aspect ouvrier et paysan aussi, d'ailleurs, et puis aussi peut-être les rencontres qu'il y a pu y avoir, justement, entre étudiants et ouvriers?
Oui, alors, il faut rappeler que 68, en ce qui concerne la France, puisque, encore une fois, il y a des rébellions, des révoltes un peu partout dans le monde, on pourrait éventuellement en reparler, mais la France a cette caractéristique, en 68, de connaître une grève générale, avec occupation d'entreprises, donc d'usines, de bureaux, de magasins, de ports, de gares, de services publics, de théâtres, de lycées et d'universités. Donc il y a environ 10 millions de personnes qui se mobilisent au total. Ça veut dire quelques 7,5 millions de salariés, mais aussi, donc évidemment, des lycéennes, des lycéens, des étudiantes et des étudiants, des artisans aussi, qui parfois participent à la grève. J'ai vu des chauffeurs de taxi, par exemple, qui font grève, des artisans coiffeurs, voilà, auxquels on pense moins, parfois même des commerçants. Alors, évidemment, là, on ne peut pas monter en généralité, mais il y a des cas comme ça. Donc ça, c'est une première chose à rappeler, c'est quand même 10 millions de personnes au total qui participent à ce mouvement de contestation. La deuxième chose à propos des étudiants, c'est qu'au fond, ils sont minoritaires. Ils sont vraiment minoritaires, y compris dans la jeunesse de l'époque, puisqu'ils représentent environ 12% de leur classe d'âge. Donc ça veut dire que l'essentiel, l'écrasante majorité des jeunes à partir de l'âge de 16 ans, ils sont dans le monde du travail. Donc on va les retrouver dans les usines, dans les bureaux, dans les magasins, sur les exploitations agricoles notamment. Donc ça c'est très important parce que du coup les étudiants ils sont tout à fait conscients de leur situation relativement privilégiée. Bien sûr il y a quelques boursiers, il y a quelques étudiants qui viennent de milieux sociaux plus populaires, mais il y a moins de 5% d'enfants d'agriculteurs, moins de 7% d'enfants d'ouvriers qui font des études supérieures à cette époque. Donc il y a eu une grande croissance du monde étudiant. Depuis la guerre, on est passé de 100 000 étudiants en 1945 à environ 500 000 en 1968. Il n'empêche que voilà, les étudiants sont minoritaires et le savent. Et d'ailleurs, la plupart des étudiants mobilisés vont avoir pour première préoccupation d'aller soutenir le monde du travail et en particulier les ouvriers en grève. Ça fait partie de ta question. Alors donc 68, oui, bah c'est d'abord une grève générale avec beaucoup d'occupations dans les usines. Donc le monde ouvrier est mobilisé avec des comités de grève, des assemblées générales, des revendications qui sont extrêmement diverses, mais qui nous rappellent à quel point les conditions de travail étaient dures à l'époque. On travaillait beaucoup, hein, plus de 46 heures par semaine en moyenne. Avec des cadences très élevées, il y a vraiment une hausse de la productivité à cette époque qui a des retombées évidemment dans le quotidien du travail. Ce sont encore des conditions de travail qui sont très contraintes, hein, vraiment sous contrôle. Tout est mesuré, la durée des pauses, on ne peut pas aller aux toilettes plus de 5 minutes si le patron a octroyé 5 minutes et pas 7. Il y a tout cet univers de la hiérarchie, des petits chefs. Donc vraiment une pression très forte au travail. Et 68 révèle aussi cette volonté de s'échapper un peu de ces conditions qu'on juge de plus en plus aliénantes, en fait, hein. Cette question de l'aliénation, le fait d'être un peu, de devenir autre que soi-même dans ces conditions de travail, c'est quelque chose de très présent en 68. Ce qui m'a aussi beaucoup surprise, même s'il y avait déjà eu quelques travaux dessus, mais c'est de voir qu'une partie du monde paysan s'est mobilisée très tôt d'ailleurs en 68. Les premières grandes manifestations de 68 n'ont pas lieu au quartier latin, mais à Quimper, à Redon, dans tout l'ouest de la France avec les manifestations « L'Ouest veut vivre ». D'ailleurs, à Quimper, en octobre 1967, il y avait eu déjà de premiers pavés lancés. Les premiers pavés n'ont pas été lancés sur le boulevard Saint-Michel à Paris, mais bien à Quimper. Et ce qui était marquant dans ces manifestations, c'était déjà une manière de pointer le marché agricole donc européen, de l'idée que l'Europe constituait une agriculture à deux vitesses, où en fait il y a d'un côté les grands exploitants agricoles et puis de l'autre une agriculture qui risque de mourir avec des paysans qui se retrouvent dans des situations extrêmement fragiles et extrêmement précaires. Et donc ce qui est aussi tout à fait important lors de ces manifestations paysannes, c'est qu'elles sont rejointes par les syndicats du mouvement ouvrier. Et donc déjà des manifestations communes dès le début de l'année 68 et même un peu avant. Donc voilà, il y a déjà cette matrice-là qui est très présente autour de ces mobilisations. Et donc j'en viens dès lors à ton interrogation sur les formes de solidarité. On a souvent en tête ce cliché, qui n'est pas qu'un cliché, puisque c'est vrai que ça s'est produit, des grilles de l'usine Renault à Billancourt, qui, le 17 mai 1968, se sont refermées sur ordre de la section de la CGT à ce moment-là, devant le cortège des étudiants qui venaient de la Sorbonne pour soutenir la grève. Donc on a souvent répandu l'idée qu'au fond, il n'y avait pas eu de lien entre le monde étudiant et le monde des usines, le monde ouvrier en particulier. Et en fait, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, parce que quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a énormément de rencontres, de réciprocité et de solidarité. Beaucoup d'étudiants et de lycéens qui vont soutenir les piquets de grève. Et d'ailleurs, la preuve tragique en est la mort du lycéen Gilles Totin, qui intervient le 10 juin 1968 à Flins, justement, juin, on en parlait tout à l'heure, à Flins dans les Yvelines à l'usine Renault. Pourquoi ? Parce que là, il y a des milliers de personnes qui sont venues soutenir les grévistes de Flins qui continuaient à occuper leur usine dont l'usine justement était investie par les gendarmes mobiles et les CRS. Et donc il y a eu des affrontements extrêmement violents et Gilles Totin est mort à ce moment-là. Il y a eu beaucoup d'appui matériel apporté par les jeunes étudiants ou lycéens dans ces occupations d'usine en particulier, mais aussi d'autres lieux de travail. Hein. Je pense à des centres de tri postaux, je pense aux chèques postaux, je pense à des magasins, etc. Et d'ailleurs, avant même le début des événements de mai-juin 68, beaucoup d'étudiants se préoccupaient aussi des conditions de travail des personnels dans les cantines, les restaurants universitaires, entre autres. À l'inverse, il y a aussi des délégations ouvrières qui vont dans les assemblées générales dans les universités. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais mis les pieds dans les facs, mais qui y vont parce que ce sont des lieux ouverts où on débat, où on discute, et la prise de parole, elle est aussi très importante. Et enfin, il y a des mouvements qui associent étudiants, ouvriers et paysans, puisque beaucoup de jeunes vont solliciter des agriculteurs pour leur demander des vivres, des denrées alimentaires pour soutenir les grévistes et soutenir les familles de grévistes. Et ça, ça s'est trouvé de manière assez fréquente. Alors parfois, il y a une vraie solidarité paysanne. Parfois, au contraire, dans une partie du monde agricole plutôt conservateur, on s'entend rétorquer « reprenez d'abord le travail et vous aurez à manger ». Et je terminerai sur cette réponse en évoquant le cas de Nantes, parce que Nantes a été un lieu tout à fait propice à ce type de rencontre, où notamment l'hôtel de ville de Nantes a été occupé et repris même par l'intersyndicale, on a même pu parler de la commune de Nantes. Et là, donc, cette intersyndicale, elle va en quelque sorte pratiquer une autogestion de la ville en organisant là aussi des collectes, des redistributions de vivres dans les quartiers populaires de la ville, en éditant des bons d'essence, les liens avec les commerçants aussi qui ont été très importants, entre autres.
Nous avons affirmé plusieurs fois au cours de ces jours le caractère anticapitaliste, anti-bourgeois de notre lutte.
Ton livre aborde une foultitude de thématiques concernant mai 68. Et Le Lag et Clis 21 avaient choisi de t'inviter pour traiter particulièrement quelques thématiques ciblées. Alors si tu es d'accord, on va essayer de les reprendre ensemble. Une première thématique, c'est le rôle des femmes, des filles, en mai 68. Alors, est-ce que tu peux déjà brosser un petit peu le tableau de la réalité du monde féminin, de cette moitié de la France, finalement, ou de l'humanité, d'ailleurs, réalité de vie, de travail, de vie personnelle. Tu évoquais notamment dans le débat aussi les questions de sexualité, les questions d'intimité. Et puis ensuite, peut-être revenir sur quel a été leur rôle, leur impact, leurs difficultés, leurs échecs, leurs réussites.
Oui. Non, mais bien sûr, c'est très important de rendre visibles les femmes à cette période, et puis tout particulièrement pendant la grève générale, parce qu'elles y vont jouer un rôle important. Donc, la place des femmes, eh bien, c'est vrai qu'elle est compliquée, parce qu'à la fois, les femmes sont désormais très nombreuses à être salariées, avec des inégalités femmes-hommes qui sont quand même flagrantes et qu'on connaît toujours aujourd'hui, mais qui sont encore plus importantes à l'époque, notamment en matière de salaire, bien évidemment, puisque à l'époque, les femmes, elles touchent en moyenne un quart de salaire en moins que les hommes. Elles sont souvent reléguées à des tâches beaucoup plus répétitives. Donc, c'est surtout les femmes qu'on trouve dans les chaînes. C'est vrai qu'on n'a pas forcément cette image-là parce qu'on a en tête les chaînes des industries automobiles, mais il y a bien d'autres secteurs où on travaille à la chaîne, notamment dans la chimie, voilà. Elles sont aussi très présentes dans le textile. Elles sont donc présentes tout particulièrement dans des secteurs fragilisés, et on le connaît bien aussi dans le Nord et le Pas-de-Calais, hein, pour tout ce qui concerne les usines textiles, plutôt du côté de Roubaix et de Tourcoing. Donc c'est vrai que la place des femmes, elle est quand même en partie fragilisée par ces discriminations, par ces inégalités. Et puis il faut aussi se rappeler de l'ordre moral qui règne à cette époque et qui les touche tout particulièrement, elles, jeunes filles et femmes. Par exemple, la plupart des établissements scolaires sont non mixtes, et on surveille tout particulièrement les filles. Dans ces établissements, dans les collèges ou lycées de jeunes filles, les règlements intérieurs stipulent qu'elles n'ont pas le droit de porter un pantalon, par exemple. Hein. Leur corps est très contraint. On est très... voilà, il y a toutes sortes de micro-pouvoirs pour surveiller leurs allures, leurs attitudes, et en particulier sur toutes les questions liées à la sexualité qui restent un tabou. La contraception n'est pas accessible à cette époque, en particulier pour les mineurs. Alors bien sûr, à la veille de 68, exactement une année auparavant, en 1967, il y a eu la loi Neuwirth qui autorise la pilule, en fait, hein, l'accès à la pilule, mais ce n'est pas le cas pour les mineurs. Et de toute façon, il faudra encore attendre plusieurs années pour que les décrets d'application de cette loi soient pris. Donc, on est ici face à une sexualité qui reste une sorte de repoussoir dans la morale traditionnelle. Les femmes doivent quand même essayer de préserver leur virginité pour leur futur époux, et donc la préserver jusqu'au mariage. Là où on peut parler d'une sorte de double morale sexuée et sexuelle, hein, parce que pour les jeunes garçons, la sexualité précoce est plutôt encouragée et valorisée. Et puis, il y a vraiment cette terreur des grossesses non désirées. On vit vraiment dans la crainte de ces grossesses qui seraient, entre guillemets, des accidents, et qui seraient aussi une honte sociale pour ce qu'on continue d'appeler à l'époque les filles mères. Et à cette époque, c'est vrai que c'est une catastrophe d'être fille mère. Donc, un tabou là aussi. Et donc, beaucoup imaginent... moi, j'ai lu aussi beaucoup de textes tout à fait poignants de femmes qui disent « Mais l'avortement, c'est aussi un autre tabou. » Et puis, on sait qu'il n'est évidemment pas autorisé à cette époque. Et dès lors, il y a soit le risque d'un avortement clandestin avec un danger pour tout simplement la vie de ces femmes. Et puis, il y a aussi des pensées suicidaires, hein, justement, qui viennent se greffer dans cette hypothèse, quoi. Qu'est-ce que je ferais si je devenais fille mère. Donc voilà, y compris dans le mouvement syndical, dans les partis politiques de gauche à cette époque, on n'accorde pas énormément de place aux revendications des femmes en tant que telles. Il y a des revendications, mais c'est surtout pour les femmes en tant qu'elles sont des mères de famille. Par exemple, le Parti communiste français dépose régulièrement des projets de loi pour augmenter la durée des congés maternité ou des congés pour enfants malades, mais c'est toujours reconduire la femme dans son rôle d'épouse et dans son rôle de mère. Alors voilà, pour un tableau très rapidement brossé, hein, il faudrait introduire des nuances, mais c'est la place des femmes explique aussi l'importance de leur rôle en 68, même si justement, elles sont trop invisibles, notamment dans les médias quand ils évoquent 68. Alors qu'elles ont été très actives, très agissantes, que beaucoup ont participé sur leur lieu de travail, à la grève elle-même, aux occupations, aux piquets de grève. Moi, il y a beaucoup d'usines qui sont tout simplement à très large majorité de femmes dans, parmi la main-d'œuvre. Il y a, dans les usines textiles, c'est le cas peut-être parfois à plus de 80%. Je citais tout à l'heure La Roche-sur-Yon. Hein, j'y ai trouvé, bon, il y aurait 1000 exemples à citer, mais une usine qui s'appelle Big Chief, qui est une usine textile. Il y a environ 300 salariés. Quasiment uniquement des femmes. Bon, bah, elles s'installent dans la cour de l'usine, elles occupent, elles organisent des sit-ins, elles font le piquet de grève, etc. On les retrouve dans d'autres secteurs que le monde industriel, on les retrouve dans les services, hein, les chèques postaux par exemple, c'est un secteur qui a été très très mobilisé, la grève a été très dure dans les chèques postaux un peu partout en France, et je sais qu'à Lille notamment, je le sais pour des raisons un peu familiales puisque ma mère y travaillait en 68, elle était employée des chèques postaux, et ça a été aussi une grève importante. Je pense aussi aux salariés des magasins, les employés de magasins qui se sont beaucoup mobilisés en 68, et c'était quand même assez exceptionnel de voir des magasins occupés, notamment les grands magasins. Et puis il y avait aussi, on pourrait citer d'autres secteurs, les hôtesses de l'air et les hôtesses d'accueil d'Air France qui se mobilisent également et qui dès lors, dans leur cahier de revendications, nous parlent beaucoup de leurs conditions de travail. On les découvre à travers elles. Il faudrait aussi citer les lycéennes. Comme je le disais, les établissements pour la plupart sont non mixtes à cette époque et il y a énormément de documents qui émanent des lycées occupés et notamment des lycées de filles. Et elles élaborent ce qu'elles nomment des cahiers de doléances. Elles imaginent beaucoup des pédagogies alternatives, des pédagogies un peu inspirées, même si elles ne les ont pas forcément lues, de Freinet ou de Montessori. Où on se réapproprierait véritablement le savoir. Et là aussi, elles ont joué un vrai rôle comme lycéennes et également comme étudiantes. Alors pour terminer sur cette réponse, en même temps, évidemment, tout n'est pas rose ni idyllique. Enfin, rose d'ailleurs, il ne faudrait peut-être pas utiliser cette métaphore quand on parle des femmes et des hommes, parce qu'on va toujours reconduire le rose pour les femmes, ce qui est aussi un problème. Mais en fait, justement, la plupart des leaders de 68 sont des hommes et ne se posent pas trop cette question. Bon, oui, tiens, voilà, il n'y a que des hommes dans les tribunes, au micro, etc. Mais c'est une question qui reste très peu abordée en fait d'un point de vue politique. Et donc les femmes en subissent les conséquences. C'est vrai que pendant des décennies, de toute façon, elles n'ont pas été considérées comme dignes d'être citoyennes. Et même pendant la Révolution française, c'était le cas. Et malheureusement, c'est venu y compris des Jacobins et des Montagnards qui ont considéré que les femmes n'avaient pas leur place dans les assemblées, dans les clubs, alors qu'elles y avaient dans un premier temps joué un grand rôle. Et donc, il y a toujours cette méfiance à l'égard des femmes, de la parole des femmes, ou en tout cas, cette absence de conscience de discrimination femmes-hommes, y compris dans les lieux de lutte. Et du coup, elles-mêmes, parfois, elles intériorisent cet enjeu, c'est-à-dire que parfois, elles dévalorisent leurs propres idées, leurs propres pensées, leurs positions. Elles ont peur de prendre la parole, elles se disent qu'elles ont peut-être des choses intéressantes à dire, mais qu'un homme, un délégué syndical, par exemple, les exprimera mieux qu'elles. Et donc ça va susciter véritablement une contradiction dans le mouvement, une forme de reconduction d'une domination masculine. Et bien des femmes en prendront aussi conscience. Et dans les années qui suivront, il y aura la mise en place de groupes femmes pour essayer d'aller au-delà de ces problèmes qui s'étaient posés en 68. Donc à cet égard, 68 s'est révélé comme un accélérateur du mouvement féministe, puisque elles ont décidé pour certaines de se retrouver entre femmes pour apprendre à prendre la parole, pour aborder des sujets difficiles à évoquer en présence des hommes, pour ne plus être coupées, etc., par des hommes qui estimeraient toujours avoir plus et mieux à dire. Donc ça a été tout un apprentissage collectif que 68 a favorisé.
Alors justement, du point de vue des organisations, donc le MLF n'existe pas,
non,
pas encore.
Il est créé en 70.
Est-ce qu'il existe déjà des prémices organisées?
Alors, il y a évidemment le planning familial qui a fait beaucoup pour justement l'information, la diffusion d'une prise de conscience sur la contraception, qui s'est beaucoup battue aussi dans le sens de la contraception libre et gratuite, et plus tard qu'on retrouvera aussi dans toutes les batailles sur le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Donc ça, c'est évidemment très important, notamment pour les jeunes femmes. Ce qu'on s'est dit tout à l'heure lors du débat, il y a un témoignage qui indiquait que, compris des jeunes femmes de 17 ou 18 ans, n'avaient tellement pas d'informations sur la sexualité qu'elles avaient peur d'être enceintes juste pour avoir embrassé un garçon. Donc c'était aussi cette méconnaissance, cette ignorance écrasante, parce que ça suscitait des peurs et parfois même de véritables terreurs, quoi, à l'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se retrouver enceinte dans des conditions dramatiques. Donc il y a de rares expériences qu'on pourrait dire féministes en 68. L'une des seules, c'est ce qui s'est passé à la Sorbonne. En fait, il y a eu en mai 68 l'organisation d'une grande réunion sur ces questions des rapports femmes-hommes à l'initiative d'un groupe qui venait de se constituer, qui s'appelait le groupe Féminin Masculin Avenir, FMA, Féminin Masculin Avenir, et qui d'ailleurs, peu de temps après, est devenu Féminisme Marxisme Action, donc qui a changé de nom en étant un peu plus volontariste encore du point de vue politique, c'est-à-dire se réclamant à la fois du marxisme et du féminisme. J'ai trouvé aussi quelques exemples de femmes qui... beaucoup relèvent la tête de toute façon, encore une fois, beaucoup s'expriment, etc. Il faut vraiment bien le souligner un peu partout. Mais de femmes qui vont se dire « comme femme, il faut s'organiser », c'est encore rare en 68. Alors paradoxalement, il y a un endroit où ça se passe, c'est à Sciences Po à Paris, donc c'est quand même un peu l'école par excellence de la reproduction des élites. C'est dans le cœur très bourgeois de Paris, dans le 7e arrondissement, Sciences Po, l'Institut d'études politiques de Paris. Et en fait, il y a une grosse mobilisation à Sciences Po, des assemblées générales tous les jours, une occupation des lieux, etc. Et là, il y a des tracts des étudiantes de Sciences Po qui disent « bon, ben, il faut s'y mettre, en fait, il faut briser notre monopole, en fait, notre privilège qui est de confectionner les sandwichs et de faire le ménage pendant la grève dans l'institut. » Donc, en fait, elles disent « il faut aussi qu'on fasse la grève de la vaisselle, du ménage, et voilà. » Et donc, avec beaucoup d'humour, d'ailleurs, mais elles arrivent à pointer du doigt les problèmes et les contradictions du mouvement à cet égard.
Mais j'estime quand même qu'à 63 ans, je pourrais un peu me reposer et profiter un peu de la vie.
Lancement de l'âge à la retraite, amélioration, réduction des cadences.
Lors de ce débat, cet échange pensé ensemble, une deuxième thématique qu'avait souhaité CLIS 21 et le LAG, c'était l'autogestion, pour des raisons liées à ce que vivent CLIS 21 et le LAG, le lieu autogéré du bassin minier. Alors, sur cette question de l'autogestion, il y a sans doute plusieurs façons de l'aborder. La question de la propriété des moyens de production, la question de qui produit. J'avais envie de commencer par une autre question, c'est est-ce qu'il y a pu y avoir des rencontres entre des travailleurs, des travailleuses et d'autres, les cadres en particulier? Est-ce que ça a pu se passer? Est-ce que mai 68 a été un déclencheur à ce niveau-là de nouvelles choses?
Oui, absolument. Alors, les situations sont toujours très diverses. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même 7,5 millions de salariés qui sont en grève et au total 10 millions de personnes dans la contestation. Donc, bien sûr que c'est très difficile de faire des généralités. Donc, tout ce que je peux dire là mériterait à chaque fois d'être nuancé. Mais oui, il y a bien des endroits où les cadres se sont retrouvés dans la grève, souvent dans une perspective plutôt de solidarité avec les salariés, les autres salariés, d'autres statuts, même si à certains endroits, ils ont aussi mis en avant leurs propres revendications, souvent avec le sentiment de vouloir cesser de reproduire mécaniquement un système dans lequel ils ne se reconnaissent plus. D'ailleurs, c'est pas très loin d'ici, enfin à Roubaix, aux Archives du Monde du Travail, que j'ai trouvé un certain nombre de choses sur ces questions de cadres investis aux Archives du Monde du Travail à Roubaix, c'est-à-dire dans une ancienne usine textile. On retrouve beaucoup de, comme son nom l'indique, d'archives syndicales, d'archives d'entreprises, d'archives des usines. Et donc là, on voit les cadres se mobiliser. Mais encore une fois, les situations sont très diverses, parce qu'à certains endroits, au contraire, les cadres vont chercher à mettre un frein à la grève. Et c'est intéressant que tu soulèves cette question des cadres en parlant de l'autogestion, parce que on a beaucoup évoqué l'autogestion en 68. On pourrait y revenir un petit peu plus en détail si tu le souhaites. Mais... on en a beaucoup parlé, mais bon, il faut se rappeler que la grève, elle a duré quelques semaines, donc on n'a pas véritablement eu le temps, la possibilité de mettre en œuvre des expériences autogestionnaires. J'ai parlé de Nantes en ce qui concerne une ville, en quelque sorte, sous autogestion, mais il y a eu surtout une entreprise qui a relancé la production en 68, c'est Thomson CSF à Brest. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant par rapport au cadre? C'est que là, on a eu... la mise en place de ce qui est appelé des commissions ouvrières. Mais dans ces commissions ouvrières, il n'y avait justement pas que des ouvriers. Il y avait différentes catégories du personnel, dont des cadres, qui ont vraiment participé à cette relance de la production d'une manière qui se voulait autogestionnaire.
Moi, je suis partant pour qu'on continue sur l'autogestion. Hein. Oui. Donc, moi, j'avais relevé d'autres entreprises. Hein. Tu parles de Thomson CSF à Brest. Il y a Thomson CSF à Issy-les-Moulineaux également.
Oui, aussi,
il me semble qu'ils ont été dans ce chemin. Alors, jusqu'où ça a été? Quelles ont été les limites des tentatives de... En gros, pour reprendre l'IP, hein, on produit, on vend, on se paye. Oui. Jusqu'où c'est allé, quoi?
Oui. Alors, déjà, l'enjeu de la discussion, c'est est-ce qu'on parle de 68 ou des années suivantes? Parce qu'évidemment, 68 a eu des répercussions. Et souvent, on a évoqué tout à l'heure le nom de Michel Zancarini-Fournel. Elle a été de celles et de ceux qui ont parlé des années 68. Ça, c'est quelque chose qu'on évoque de plus en plus aujourd'hui. Et donc évidemment que dans les années qui ont suivi la grève générale de mai-juin, il y a eu un certain nombre d'expériences autogestionnaires, on peut y revenir, mais déjà pour parler de la grève elle-même, qui pose par là même, parce qu'il y a grève, parce qu'il y a occupation, qui pose des questions nouvelles, parce qu'on a le temps de se réunir en comité de grève, en assemblée, en comité d'action ou en comité de quartier, et de soulever ces questions, notamment de l'autogestion. Alors il y a quand même des obstacles. Le premier obstacle, en fait, il est quand même syndical, parce qu'il y a des clivages syndicaux. Et même si là, je vais un peu tailler à la hache au risque d'être un peu caricatural ou schématique, mais globalement, la CGT ne se reconnaît pas du tout dans la perspective autogestionnaire. Et les représentants confédéraux le disent, hein, mais vraiment très explicitement. Georges Séguy dit que c'est pas le moment de détourner la grève avec des thématiques comme l'autogestion. Là où la CFDT va mettre bien davantage à cette époque l'accent sur l'autogestion. Là aussi, il faudrait nuancer parce que ce n'est pas toute la CFDT. Il y a vraiment des fédérations qui sont très inspirées par la perspective autogestionnaire. Je pense à la fédération de la chimie, à la fédération aussi qu'on appelle Acuitex dans la CFDT, c'est-à-dire habillement, cuir, textile, avec un militant syndical qui est important, dont le rôle est important à l'époque, c'est Fredo Krumnov. Et Fredo Krumnov de la CFDT qui a beaucoup porté la perspective autogestionnaire dans ce syndicat. Il a fait le voyage en Yougoslavie. Et donc l'expérience yougoslave est une source d'inspiration. Beaucoup à cette époque, il y a une revue qui s'appelle Autogestion, qui rend compte un peu de ce qui se passe sous le régime de Tito, alors qu'il y a aussi ses limites, évidemment, parce que d'un côté, il y a en effet des commissions ouvrières qui gèrent les usines, mais de l'autre, c'est quand même toujours très centralisé par le parti, en fait. Hein, en l'occurrence, la Ligue communiste des travailleurs. Donc il n'y a pas véritablement de démocratie ouvrière, même s'il y a une autogestion à certains égards à la base. Donc l'expérience yougoslave est quand même beaucoup discutée dans la CFDT, mais pas du tout dans la CGT. Donc ça, c'est une première limite. Et puis la deuxième limite, c'est que évidemment, c'est parfois très difficile de relancer la production quand en amont comme en aval, c'est-à-dire du côté des fournisseurs comme du côté des clients, notamment des clients industriels, on va vivre un peu en autarcie, quoi. Donc c'est vrai que dans les années qui ont suivi 68, il y a eu de nombreuses expériences autogestionnaires. Il y en a eu une quarantaine en France, il y en a eu aussi beaucoup en Belgique et dans d'autres pays comme l'Argentine. L'exemple qu'on a évidemment le plus en tête, parce que c'est un exemple, une lutte qui a été très très populaire et qui a duré plusieurs années et qui a soulevé un certain nombre d'enjeux, c'est celle que tu as citée, c'est-à-dire LIP à Besançon, qui fabriquait des montres et de l'horlogerie, et qui a posé en fait cette question, mais pourquoi ne pas se passer du patron, quoi. Même si quand même il faut se souvenir que LIP était en situation difficile, sur le point de fermer, et dès lors, à l'origine, le mouvement visait à trouver un repreneur. Donc c'est la raison pour laquelle les ouvrières et les ouvriers ont relancé la production. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup interrogé à l'époque sur deux enjeux majeurs. D'une part, est-ce que l'autogestion ne peut pas être récupérée par le pouvoir politique? Et ce qui m'a beaucoup frappée en travaillant sur tout ça en 68, c'est qu'il y a eu une énorme lucidité à l'égard de ce problème, de ce risque de la récupération. Parce que pendant qu'un certain nombre de protagonistes de la grève parlaient d'autogestion, Charles de Gaulle lui-même avait ressorti de ses cartons son vieux projet qui datait de la guerre, de la cogestion ou de la participation ou de l'intéressement, ou ce qu'il nommait également l'association capital-travail, c'est-à-dire participer aux résultats de vos entreprises. Donc en gros, c'est accorder plus de place aux salariés, mais pour qu'ils soient plus productifs. Et ça, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'autogestion, parce que l'autogestion, elle suppose de rompre avec, en effet, la propriété privée des moyens de production. Elle suppose de socialiser, en fait, ces moyens de production. Donc, voilà, autogestion n'est pas cogestion, et c'est un piège qui, à l'époque, a été bien repéré par celles et ceux qui défendaient la logique autogestionnaire. Et la deuxième limite, c'est ce qui s'est posé dans les années 70, c'est est-ce qu'on peut avoir des expériences autogestionnaires quand tout le reste du marché et de la production est évidemment au cœur du capitalisme, hein, c'est-à-dire est-ce que on va trouver des débouchés, voilà, LIP, c'était, on a parlé ce matin de la CIP aussi, c'était une chemiserie qui était en autogestion, ça. C'était quand même de petites boîtes où on pouvait assez facilement écouler les produits issus de cette production autogérée. Il y a eu par exemple des ventes de montres LIP qui ont été aussi le fait d'une vraie solidarité à l'égard du mouvement, mais c'est plus difficile dans d'autres branches, notamment dans les secteurs de l'industrie lourde, de l'industrie métallurgique, entre autres.
Je voudrais qu'on parle de la fin, en quelque sorte, de mai 68, enfin du mois de juin, déjà la fin mai et le mois de juin. Comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé au fait de s'en sortir avec ce compromis républicain, hein, qui a un petit peu uni toutes les forces institutionnalisées, de gauche comme de droite, sur une ligne strictement électoraliste? Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est joué?
Oui, alors c'est vrai que là, ça mériterait une discussion presque d'une heure encore, parce que, non, pour essayer de ne pas être trop schématique, mais on n'a pas le temps. Donc on va le faire à la hache là aussi. Donc j'espère ne choquer personne parmi les auditrices et les auditeurs de Micro Rebelle par rapport à ce que je vais dire, qui encore une fois sera rapide. Je pense que le pouvoir a essayé de reprendre la main, évidemment, après un moment de grand trouble, hein, de grand désarroi. J'ai beaucoup travaillé sur les archives du pouvoir, de l'Élysée, de Matignon, des ministères, des préfets, etc. Il y a eu un moment vraiment de panique où personne ne comprenait ce qui se passait. Et donc aussi cette éventualité que De Gaulle parte, hein, il a clairement envisagé. Bon. Mais il essaie de reprendre la main en utilisant deux stratégies qui ne sont pas contradictoires mais qui sont complémentaires, la répression et la négociation. La répression, elle sera très violente, elle l'est dès le début, divisée pour mieux régner aussi, une tentative absolue de diviser les étudiants et les salariés, de disqualifier les étudiants, voilà. De dire que c'est la chionnie, tout ça, bon, des anarchistes, comme si l'anarchisme était évidemment en soi une étiquette malfaisante, mais c'est comme ça que ça a été présenté. Bon. Et puis, il y a eu la négociation, donc il y a eu Grenelle, avec des divisions syndicales à propos de Grenelle, parce que la logique de la CGT, c'était de mettre en avant trois points principaux, c'est ce qui ressortira de Grenelle, à savoir les augmentations de salaires, qui ont été très importantes, environ 7% d'augmentation des salaires, 35% d'augmentation du SMIG. Deuxième point, c'est la fin des abattements d'âge. C'est-à-dire qu'on arrête de payer les jeunes avec des proportions de salaire en raison de leur âge. Et puis, troisième point, c'est la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Donc, c'est trois points, trois acquis de Grenelle qu'a défendu la CGT et qui lui ont semblé suffire dans la négociation. Ça veut dire qu'à Grenelle même, il y a beaucoup de sujets qui ont été soulevés rapidement, et notamment à l'instigation de la CFDT, hein. Je précise d'ailleurs que moi-même, je suis adhérente de la CGT aujourd'hui, hein, donc je ne veux pas du tout me faire l'avocate particulière de l'un ou de l'autre de ces syndicats. Non, je préfère le dire parce que voilà, c'est vrai que là, il y a un clivage à cette époque qui fait que bon, il y a une division syndicale en termes de stratégie et de projet. Et donc, la CFDT dit, mais il faut qu'on aborde d'autres questions, la baisse du temps de travail, donc les 40 heures, la baisse de l'âge de la retraite, les cadences, toute une série de questionnements aussi sur les conditions de travail, la sécurité sociale aussi qui était mise en cause par les ordonnances de 67. Et globalement, les représentants de la CGT à Grenelle ont dit « Oui, ben tout ça, on verra plus tard, ou alors on verra dans les négociations par branche, ou alors par entreprise. » Et donc, ça veut dire qu'on est sorti de Grenelle avec beaucoup de choses qui laissaient un sentiment de frustration ou d'amertume. Mais quand même, aux yeux notamment de la direction du Parti communiste, de la direction de la CGT, il y avait eu des acquis importants à Grenelle. C'est ce qui explique que... le journal L'Humanité est pu titrer début juin « Reprise victorieuse du travail dans l'unité » en une, en disant ben « voilà, on peut reprendre parce qu'on a gagné ». Sur cette entrefaite, entre Grenelle et cette déclaration de l'Humanité, il y avait eu le discours du général de Gaulle le 30 mai, qui a décidé à ce moment-là de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections. Et en fait, je pense que ce que De Gaulle a compris à ce moment-là, dans un moment tout à fait décisif pour la mobilisation, pour cette grève générale, parce que c'est la charnière du mois de mai et du mois de juin, De Gaulle a compris, me semble-t-il, trois choses. Il a compris qu'il était soutenu par une partie en fait, de sa base, tout simplement, des gens qui votent à droite tout le temps, et qui sont descendus dans la rue pour le soutenir massivement. Il y a eu de grandes manifestations le 30 mai sur les Champs-Élysées, mais aussi dans différentes villes de province dans les premiers jours de juin. Et on a entendu des choses assez terribles, les cocos au poteau, le rouquin à Pékin, ça c'était une allusion à Cohn-Bendit, comme s'il allait rejoindre la Chine maoïste alors que lui il était anarchiste, donc rien à voir avec Mao. Mais on a dit aussi Cohn-Bendit à Dachau, hein, c'est comme ça qu'on prononçait, Darao. Donc il y avait aussi un antisémitisme latent... contre Cohn-Bendit dans ses cortèges, c'était vraiment terrible. D'ailleurs, Jacques Prévert a écrit un très beau poème de colère et de tristesse face à certains slogans entendus dans cette manifestation. Renault au boulot, hein. Cri de peur bleue, disait Prévert. Première chose qu'a comprise De Gaulle. Deuxième chose, c'est qu'il a aussi compris qu'il pouvait compter sur l'armée, sur les chefs militaires, sur une partie même des anciens de l'OAS, hein, de l'organisation de l'armée secrète. C'est-à-dire ceux-là même qui avaient voulu lui mettre deux balles dans la tête quelques années auparavant, depuis l'indépendance de l'Algérie. Souvenons-nous de l'attentat du petit Clamart en 1963. Donc il y a un certain nombre de membres de l'OAS qui sont soit en exil, soit en prison. En juin 68, ils sont amnistiés. Ils sont amnistiés et donc ils reviennent. Ils sortent de prison et ils reviennent. Et donc De Gaulle sait qu'il va pouvoir compter sur eux. En tout cas, ils cherchent leur appui. Et en cas de situation qui deviendrait insurrectionnelle, il sait qu'il peut compter sur eux. Et puis le troisième point qui est assez décisif et qui est une question qui fâche, c'est que De Gaulle comprend qu'il va pouvoir aussi compter, je ne l'ai même pas du tout sur le même plan, mais quand même sur le Parti communiste, c'est-à-dire dans une perspective électorale. C'est-à-dire que le PC, il a peur d'être débordé, il parle beaucoup des gauchistes, il ne voit pas très bien, il y a trop de spontanéité dans ce mouvement, il y a quand même Moscou dans tout ça. Enfin, c'est-à-dire que Moscou ne voit pas non plus d'un très bon œil la grève générale en France. Hein, faut vraiment pas s'imaginer que la Pravda soutiendrait vraiment la grève générale et applaudirait des deux mains, parce qu'en fait... De Gaulle, dans le système géopolitique de l'époque, on est encore en pleine guerre froide, c'est un point d'appui pour Moscou. Hein. Khrouchtchev est venu à Paris au début des années 60, il a été accueilli en grande pompe, il y a une stabilisation du monde, donc il ne faut pas mettre en péril le régime gaulliste. Je ne dis pas du tout que le PC serait purement et simplement aligné sur Moscou à cette époque, mais voilà, il y a un trouble en fait, du côté du Parti communiste, qui dès lors estime qu'il faut en repasser par les rails bien connus de la politique, c'est-à-dire les élections. Ce en quoi il fait en l'occurrence un mauvais calcul, puisqu'il va perdre 600 000 voix en un an, puisqu'il y avait eu des élections législatives en 67. Et donc lors des élections législatives de juin 68, il a perdu donc 600 000 voix. En tout cas, c'est vrai qu'il se dirige dans cette... il s'engouffre en fait dans la brèche électorale qu'a ouverte De Gaulle, en mettant en avant l'idée d'un gouvernement populaire, mais en fait un peu sur le mode du Front populaire des organisations de gauche. Et du côté du PC, d'ailleurs, il y a eu aussi un mouvement de panique à la fin mai, quand le PC s'est rendu compte qu'il y avait des stratégies de la part de Mitterrand, de la part de Mendès France, d'écarter le PC. Vous vous souvenez peut-être que Mitterrand, en fait, s'était porté quasiment candidat au pouvoir quand De Gaulle avait soi-disant disparu, qu'il était justement allé voir Massieu à Baden-Baden. Et en fait, là, le PC a dit, mais il y a des choses qui se font sans nous, qui sont en train de se faire dans notre dos. Charletti, par exemple, le meeting de Charletti. Donc ça, ça peut aussi expliquer l'attitude du PC, qui par ailleurs craint aussi le risque de guerre civile, etc. Donc il y aurait bien des moyens d'expliquer cette stratégie politique, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est la perspective électorale qui l'emporte, et dès lors, finalement, De Gaulle qui remporte la partie.
Quelles sont les 4 ou 5 personnes de différentes tendances qui acceptent de venir se réunir maintenant en comité pendant 10 minutes pour décider du thème de la discussion?
Toute dernière question pour terminer, qui sont peut-être d'actualité. Qu'est-ce que peut nous enseigner cette période aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, la classe ouvrière prend des coups dans la tête, hein, c'est la bourgeoisie qui est aux manettes, hein, d'une manière très forte. Qu'est-ce que peut nous enseigner mai 68?
Bah d'abord, c'est un mouvement de grève générale. Et ça, en fait, ça a permis tellement de choses, en fait. Faire grève, il y a deux aspects fondamentaux dans cette grève généralisée. D'abord, le fait, tout simplement, de bloquer l'économie, donc d'inverser le rapport de force, de faire peur aux puissants. Et les puissants ont eu très peur, le patronat a eu très peur, même s'il a usé d'un grand cynisme ensuite dans les négociations au niveau local. Mais voilà, le rapport de force a changé, et on l'a vu quand même dans les années qui ont suivi 68, où il y a eu un certain nombre d'acquis qui ont été conquis en termes justement de diminution du temps de travail, d'augmentation des salaires, de diminution des cadences. Toutes choses ensuite qui ont été malheureusement écrasées ou récupérées, mais il y a eu quand même une petite décennie de lutte importante permise et ouverte par la grève générale de mai-juin 68. Et puis la grève, ça a permis tout simplement de donner du temps. Et donc de donner la parole. Enfin, tout à coup, on s'est senti légitime à prendre la parole, à s'auto-organiser, à imaginer une vie différente, à constituer des alternatives, des futurs différents. Et donc, ça a été vraiment la grande volonté de changer la vie. Donc, je pense qu'il y a un deuxième enseignement là, c'est le fait de relever la tête. 68, c'est un moment où on s'est dit, on arrête. On arrête de tout accepter, on arrête la résignation, la passivité, l'assignation à des rôles dont on ne veut plus. Donc ça a été un grand mouvement pour montrer la capacité d'agir. Ça a été un moment où on s'est mis aussi à réfléchir à la culture, à l'art, à l'idée que tout un chacun porte en soi des capacités créatrices qui sont parfois trop enfouies parce qu'on n'a pas le temps de les déployer quand on travaille 48 heures par semaine. C'est le moment où on forge le slogan « métro, boulot, dodo ». Donc comment sortir de là ? 68, c'est aussi un mouvement joyeux. C'est un moment dont, en général, on se souvient avec une forme de nostalgie heureuse parce que se trouver, se retrouver, dialoguer avec des gens avec lesquels, en général, on ne parle pas au quotidien, ses voisins, ses collègues, dans la rue, l'émergence de toute cette spontanéité qui a fait beaucoup de bien. Et même si ensuite, quelques années plus tard, le temps des désillusions a pu venir et la fermeture de cette période qui a créé aussi un désenchantement. Mais ça nous a montré aussi que à l'époque, on se disait, à un moment, on s'est dit tout est possible. C'est vrai qu'il y avait du possible. Moi, ça, je pense que c'est pas du tout fermé ou fini. Je suis très frappée de voir qu'il y a énormément d'initiatives et j'adore. Voilà, venir ici, c'est déjà voir à quel point. Au LAG, là, des gens discutent, se mobilisent, réfléchissent à toute forme d'autonomie, d'émancipation, avec un grand souci aussi de trouver des formes très collectives. C'est pas à des spécialistes, c'est pas à des experts de parler, c'est d'abord de faire émerger des choses de soi et du collectif, de la discussion. Ça, c'est formidable et on le retrouve partout et on retrouve aussi, notamment dans une bonne partie, enfin une partie des jeunes, en fait, celles et ceux qui se mobilisent dans les zones à défendre, les ZAD, qui décident d'occuper, qui décident de mettre en cohérence leur vision politique et leur pratique quotidienne, leur pratique d'existence. Donc il y a quand même beaucoup d'espoir, et c'est un espoir qu'on a trouvé en 68, et je crois que c'est toujours une source d'inspiration pour aujourd'hui.
Eh bien, je te remercie, Ludivine. Donc je vais peut-être finir par rappeler. Le livre que tu viens d'écrire, hein, donc 1968, De grand soir en petit matin, donc c'est aux éditions du Seuil. Il reste quelques exemplaires qui sont disponibles au LAG, donc nos auditrices, nos auditeurs sont invités à se procurer ce très chouette bouquin. Je ne sais pas si je peux te poser la question, tu travailles sur quoi actuellement
Bah alors là, maintenant, j'aimerais bien... Je fais un petit livre sur la notion de révolution dans une collection...
Il faudra venir nous présenter.
Voilà. Ça, c'est une collection qui s'appelle « Le mot est faible », chez un éditeur auquel je suis très attachée, qui s'appelle Anomosa. « Le mot est faible » parce que, bon, il y a justement le mot « réforme », le mot « révolution », le mot « peuple ». Ce sont des mots qui ont été abîmés, en fait, qui sont utilisés, par exemple, « révolution », on les trouve à toutes les pages publicitaires, etc. Donc, c'est « revenir aux mots ». Et ensuite, une recherche de plus long terme, un peu dans le prolongement de tout ce qu'on s'est raconté à l'instant, c'est-à-dire une histoire des projets alternatifs et des pratiques alternatives, comment se concevoir en dehors du marché, de la concurrence, de la compétition généralisée, d'un monde de profit. Donc repartir des projets qui émanent, qui traversent tout le 19e et le 20e siècle, mais notamment à partir de l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Hein, qu'est-ce qui sillonne d'espoir, pour changer la vie.
C'est vrai par rapport à ce que tu viens de dire que de très nombreux slogans et affiches de mai 68 ont été complètement récupérés par les grandes surfaces, par les publicitaires, par les banquiers y compris.
Ouais, c'est terrible. Voilà. Ouais.
Très bien, eh ben, on ne baisse pas les bras.
Haut les cœurs,
exactement.
Merci. Ce n'est qu'un début.
Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à Ludivine d'avoir passé cette petite heure avec nous. Bonne continuation, à très bientôt.
Cette émission est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir écoutée. Je vous rappelle que Micro Rebelle a diffusé plusieurs autres émissions consacrées à mai 68. Je pense en particulier à un cycle co-réalisé avec Paul Masson, militant de l'éducation populaire. Ce cycle de 4 émissions est podcastable et téléchargeable sur micro-rebelle.fr. N'hésitez donc pas. Je vous dis donc bonne écoute à toutes et à tous, bonne continuation et à bientôt sur notre web radio.